Chapitre 25. Une réponse. La chatayane attendait, et qu'on n'ose ne pas accourir à son appel, l'avait mise de fort mauvaise humeur. Le regard glacial de ses yeux noisettes aurait pu faire geler du vin. Sachant qu'une reine se mettant à dos sa chatayane était une idiote, Moiraine se montra d'une politesse exquise, tandis que la digne femme la guidait dans les couloirs. Elle eut l'impression que sa tactique fonctionnait, mais sa concentration n'était pas parfaite. Un jeune page? Siouan avait-elle jamais eu une relation avec un homme? Moiraine l'ignorait, mais quand même. Elle ne pouvait pas aller jusque-là simplement pour contacter les domestiques d'Inès. Pas un page. Assez surprise, d'après ce qu'elle connaissait des terres frontalières, Moiraine découvrit que des statues et des tapisseries décoraient les couloirs. Les personnages de marbre étaient essentiellement des femmes et des enfants. Les tapisseries représentaient des champs de fleurs ou des nobles se promenant dans un jardin, et il n'y avait pas l'ombre d'une scène de bataille. À intervalles réguliers, des arches-fenêtres donnaient sur une surprenante série de jardins bucoliques et de courettes, parfois munies d'une fontaine en marbre, du plus bel effet. Dans l'une d'entre elles, Moiraine vit quelque chose qui lui fit aussitôt oublier Siouan et son fichu page. C'était une cour très simple, sans fontaine au milieu ni colonnade autour. Massés sur tout le périmètre, des hommes regardaient deux guerriers au torse nu, qui s'affrontaient avec des épées d'entraînement, Rain et Bukama. Et il n'y allait pas de main morte, les coups, tous portés par Rain, étant assez puissants pour que leur bruit arrive aux oreilles de Moiraine malgré la distance. Elle devrait éviter les deux hommes. Et l'âne, s'il était là aussi. Il n'avait jamais pris la peine de cacher ses doutes quand ils étaient ensemble, et il risquait de poser des questions qu'elle n'avait pas envie d'entendre. Était-elle Moiraine ou Dame Alice? Pire encore. Était-elle une Aes Sedai ou une naturelle qui se faisait passer pour telle? Le soir même, toute la ville serait au courant et s'interrogerait sur ces sujets brûlants. Tôt ou tard, une sœur entendrait ces débats et déciderait d'enquêter. Par bonheur, trois guerriers itinérants ne risquaient pas de fréquenter les mêmes endroits qu'elle au palais. Solide gaillard aux yeux verts, le prince Brice reçut Moiraine dans une grande salle aux murs lambrissés de rouge et de vert. Deux sœurs du prince étaient là avec leur époux et une sœur d'Étaniel avec le sien. Les hommes portaient des tenues de soie dans des tons pastels, alors que les femmes paradaient dans des robes aux couleurs vives, brodées sur les manches et l'ourlet. Des coupes très cintrées qui mettaient leur poitrine en valeur autant que celles des robes d'Omani, mais dans un autre style. Se faufilant entre les invités, des serviteurs en grande livrée proposaient des douceurs et des rafraîchissements. Moiraine eut peur d'attraper un torticolis à force de lever la tête. La plus petite de ces dames aurait pu regarder Siouan de haut. Et toutes les trois se tenaient bien droites. Tout ce petit monde aurait légèrement incliné la tête devant une Aes Sedai. Mais Moiraine d'Amodred, aux yeux de tous, était au mieux une égale. La conversation porta sur la musique, en particulier sur le classement des meilleurs nobles qui en jouaient, sur les rigueurs des voyages en général et sur certaines rumeurs, spécialement celles qui concernaient un homme capable de canaliser le pouvoir. Et à ce propos, au fait, pourquoi les Aes Sedai étaient-elles toutes hors de Tarvalon? Sur tous ces sujets, Moiraine eut quelques difficultés à se montrer spirituelle et piquante. La musique ne l'intéressait guère, et elle se souciait encore moins de qui en jouait. Au Kairien, on engageait des musiciens quand on en avait besoin, puis on les oubliait. Quant au voyage, chacun savait qu'ils étaient une aventure périlleuse, sans aucune certitude de trouver un lit ou une table à la fin de chaque journée harassante, sans oublier les intempéries qui ne facilitaient rien. Pour ce qui était des Aes Sedai, certaines devaient être sur la piste de l'homme capable de canaliser, les autres étant chargés de resserrer des liens diplomatiques mis à mal par la guerre des Aiel. En d'autres termes, elle rappelait aux têtes couronnées et aux maisons nobles que leurs obligations vis-à-vis de la Tour Blanche restaient d'actualité, malgré la récente tourmente. Si aucune sœur n'était venue au palais à Aes Daishar, ça ne tarderait sûrement pas. Une raison suffisante pour que Moiraine ne s'aventure pas sur des sujets trop glissants. Surtout lorsqu'elle songeait aux autres raisons expliquant la soudaine bougeotte des Aes Sedai. Les hommes ne se formalisèrent pas plus que ça de ces remarques d'une banalité affligeante. Les femmes, en revanche, semblèrent la trouver ennuyeuse comme la pluie. Lorsque les enfants de Brice se joignirent à la réunion, Moiraine en conçut un vif soulagement. En lui présentant sa descendance, le prince signifia à la visiteuse qu'elle était la bienvenue au palais. Plus important encore, il lui indiquait subtilement que l'audience touchait à sa fin. Le fils aîné, Antol, était dans le sud du pays avec sa mère. Du coup, ce fut Jaren, une adorable fillette d'une dizaine d'années qui entra la première, suivie par sa sœur et ses quatre autres frères. « Suivie » étant un bien grand mot, en ce qui concernait les deux derniers, puisqu'ils étaient encore dans les langes et douillettement blottis contre la poitrine de leurs nourrices respectives. Cachant du mieux qu'elle le pouvait son impatience, car elle avait hâte d'entendre le rapport de Siouan, Moiraine félicita les enfants de leurs impeccables manières et les encouragea à bien travailler avec leurs précepteurs. À coup sûr, eux aussi durent la trouver assommante de banalité. Mais ils ne le montrèrent pas.
« Et comment vous êtes-vous blessé ainsi, monseigneur Diric ?»
demanda-t-elle, après avoir à peine écouté le récit convenu du jeune garçon.
« Madame, si je suis encore en vie, c'est parce que j'ai autant de chance que l'âne en personne !»
répondit Diric, recouvrant toute la spontanéité de l'enfance.
« En tout cas, c'est ce que dit mon père. L'âne est le roi du Malkier, l'homme le plus chanceux du monde, et le meilleur escrimeur qu'on puisse y rencontrer. À part mon père, bien entendu. »
Moiraine n'en crut pas ses oreilles.
« Le roi du Malkier ?»
Diric acquiesça. Puis il parla des exploits de son héros dans la flétrissure et de tous les Malkieri venus au palais afin de lui jurer allégeance. Le prince intervint, réduisant son fils au silence.
« Madame, l'âne est un roi quand il en a envie. »
Une étrange déclaration, rendue plus bizarre encore par le ton dubitatif de Brice.
« Il ne sort pas beaucoup de ses appartements. »
Un détail qui semblait également perturber le prince.
« Mais vous le rencontrerez sûrement avant de... Madame, vous allez bien ?»«
Pas vraiment, non. »
répondit Moiraine. Et ce n'était pas un mensonge. Elle espérait bien revoir un jour l'âne Mandragoran, histoire de régler un vieux compte, mais pas ici et en ce moment. Sonnée par la nouvelle, elle devait être blanche comme un linge.
« Il se peut que je garde la chambre quelques jours, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. »
Le prince assura qu'il comprenait, et tous les autres se déclarèrent navrés d'être privés d'une si agréable compagnie. Mais contre la fatigue d'un long voyage, que pouvait-on faire sinon se reposer? Fausse note dans ce concert d'hypocrisie, Moiraine entendit une des femmes murmurer que les gens du Sud étaient décidément de petite nature. Une jeune blonde en livrée rouge et vert fut chargée de raccompagner Moiraine jusqu'à ses appartements. Nommée Élise, elle faisait une révérence chaque fois qu'elle parlait. Autant dire qu'elle s'inclina beaucoup, au début. Informée de la faiblesse de Dame Damodred, elle s'arrêtait tous les 20 pas pour lui demander si elle voulait s'asseoir, histoire de reprendre son souffle. Une fois chez elle, faudrait-il lui apporter des linges humides? Ou peut-être des briques chaudes pour ses pieds? Et des sels? Aimerait-elle respirer des sels? Sinon, on disposait au palais d'une grande variété de potions contre les vertiges et les divers malaises. Finissant par craquer, Moiraine ordonna à la servante de se taire. Vexée, la tête de Linotte ne desserra plus les lèvres. Moiraine ne s'inquiéta pas un instant de la bouderie d'Hélice. Elle n'avait plus qu'une idée en tête, savoir si Siouan avait de bonnes nouvelles. Si elle la trouvait avec l'enfant dans les bras, la mère prête à partir avec elle, ce serait encore mieux. Mais plus que tout, Dame Alice entendait ne pas traîner assez longtemps dans les couloirs pour y rencontrer l'âne Mandragoran. Alors qu'elle s'engageait dans un corridor latéral, suivant docilement Alice, Moiraine se retrouva nez à nez avec Meriane. La chatayane en personne guidait l'Aes Sedai, et une petite procession de servantes les suivait. L'une portait les gants d'équitation rouges de l'ancienne maîtresse des novices, une autre se chargeait de sa cape à col de fourrure, une troisième de sa toque de velours noir. Deux hommes charriaient des paniers d'osier qu'un seul aurait suffi à porter, et d'autres serviteurs avaient les bras lestés de fleurs. Rien d'étonnant à cela, car une Aes Sedai était toujours mieux traitée et plus gâtée qu'une simple dame, quelle que soit l'importance de sa maison. Meriane plissa les yeux lorsqu'elle vit Moiraine.
« Je m'étonne de te croiser ici. »
dit-elle. «
À voir ta robe, je suppose que tu as renoncé à ton déguisement. Pas entièrement, cependant, puisque je ne vois pas ta bague. »
Stupéfiée par cette rencontre, Moiraine aurait été bien incapable de répéter ce que la sœur venait de lui dire.
« Vous êtes seule ? »
demanda-t-elle. Les yeux de Meriane devinrent deux fentes presque invisibles.
« La reine a décidé de continuer son chemin. Vers le sud, je crois. Mais je n'en sais pas plus. »
« Je parlais plutôt de Katsuane, »
souffla Moiraine. Plus elle réfléchissait, et plus il lui semblait évident que cette femme appartenait à l'âge noir. D'autre part, la décision de Larelle l'étonnait. N'avait-elle pas dit qu'elle voulait atteindre Tchatchin le plus vite possible? Tout un chacun pouvait changer ses plans, bien sûr, mais Moiraine s'avisa soudain d'une évidence qui aurait dû la frapper bien plus tôt. Les sœurs noires pouvaient mentir. Cela semblait impossible, si on considérait la puissance des trois serments, mais c'était ainsi. Meriane approcha de Moiraine, et quand celle-ci recula, elle la suivit. Désirant montrer qu'elle n'était pas impressionnée, la jeune femme se redressa de toute sa hauteur, mais sur la pointe des pieds, elle arrivait à peine au menton de Meriane.
Tu es si pressée de voir Katsuane. Eh bien, tu as tort. La prochaine fois qu'elle te verra, a-t-elle juré, elle te flanquera une telle fessée que tu ne t'assieras plus d'une semaine. Et je la connais. Ce n'est pas une menace en l'air.
Avisant soudain Ulysse, Méréane se radoucit, son regard se réchauffant un peu. Mais Moiraine ne l'avait jamais vue si dure.
Cela dit, Katsuane avait raison. Une fille qui croit en savoir très long alors qu'elle est ignorante risque de se fourrer dans la mouise. Je te suggère de faire profil bas, jusqu'à ce que nous puissions parler.
D'un geste, Méréane fit signe à la chatayanne qu'elle voulait repartir. La digne gouvernante lui obéit au doigt et à l'œil. Face à un roi ou à une reine, elle se serait sans doute montrée moins docile, mais les Aes Sedai avaient tous les droits. Moiraine regarda Méréane s'éloigner jusqu'à ce qu'elle ait disparu à une intersection. Tout ce qu'elle venait de dire aurait pu sortir de la bouche d'une des enquêtrices de Tamra, mais les sœurs noires pouvaient mentir. Larel avait-elle simplement changé d'avis au sujet de Tchatchin? Ou était-elle morte, comme Tamra et les autres? S'avisant qu'elle lissait nerveusement sa robe, Moiraine cessa, mais elle ne put s'empêcher de trembler.
« Vous êtes une Aes Sedai ?»
s'écria Élise, les yeux ronds de surprise. Elle sursauta, prenant la grimace de Moiraine pour un rictus mauvais.
« Une Aes Sedai déguisée. Je ne dirai rien à personne, Aes Sedai. Je le jure par la lumière et sur la tombe de mon père. »
Comme si les gens qui accompagnaient Mère et Anne n'avaient pas tout entendu. Et ceux-là ne tiendraient pas leur langue, c'était couru.
« Conduis-moi chez l'âne, Mandragoran !»
ordonna Moiraine à Élise. Vérité au matin pouvait changer à midi. Et il en allait de même avec les plans les mieux conçus. Sortant la bague au serpent de sa bourse, Moiraine la passa à sa main droite. Parfois, il fallait savoir jouer son vatou. Après une longue marche, silencieuse par bonheur, Élise frappa à une porte rouge. Ne laissant pas le temps d'ouvrir la bouche à la servante aux cheveux gris qui vint ouvrir, elle lui annonça que Dame Moiraine d'Amodred Aes Sedai désirait s'entretenir avec le roi Alan Mandragoran. Élise avait ajouté sa touche personnelle à ce que Moiraine lui avait demandé de dire. « Roi, et quoi encore ?» La réponse ne tarda pas. Le seigneur Mandragoran n'avait aucune envie de s'entretenir avec une Aes Sedai. L'air scandalisé qu'on puisse humilier ainsi une sœur, la servante claqua néanmoins la porte au nez de Moiraine.
« Dame Aes Sedai, »
souffla Élise.
« Dois-je vous conduire à vos appartements ?»« Si... »
Élise glapit lorsque Moiraine ouvrit d'autorité la porte et entra chez le roi du Malquière. La servante aux cheveux gris et une de ses jeunes collègues se levèrent d'un bond, lâchant les draps qu'elles étaient en train de repriser. Un page famélique se leva également, regardant les deux femmes comme s'il attendait un ordre. Rien ne se passa. La plus âgée des servantes, voyant Moiraine arquer un sourcil perplexe, se contenta de désigner une des deux portes qui conduisait au cœur de la suite. Moiraine poussa le battant et entra dans un salon qui ressemblait beaucoup à celui de sa propre suite. Mais ici, on avait poussé les fauteuils contre les murs et roulé les tapis. Dans la zone ainsi dégagée, l'âne, torse nu, s'entraînait à l'épée. Un médaillon oscillait à son cou au rythme de ses mouvements incroyablement rapides. Il ruisselait de sueur. Sur son torse, les plaies que Moiraine avait guéries étaient remplacées par des zébrures rouges. Des traces de griffes d'un animal sauvage? Ou les marques laissées par les ongles d'une femme? Cet homme de marbre pouvait-il déchaîner une telle passion chez une maîtresse? Moiraine sentit qu'elle s'empourprait. Les images qui venaient de naître dans sa tête, sans doute. Eh bien, qu'il ait toute la tigresse qu'il désirait, ce sale type, tant qu'il faisait ce qu'elle entendait qu'il fasse. L'âne acheva une figure, se retourna souplement, appuya la pointe de son arme sur le sol dallé, et regarda sa visiteuse, sans plonger ses yeux dans les siens, comme d'habitude. Malgré son adori, ses cheveux trempés pendaient devant ses yeux, mais il n'était plus du tout essoufflé. « Vous, » grogna-t-il.
« Aujourd'hui, on est une Aes Sedai et une Damodred. Rien que ça. Je n'ai pas de temps à perdre en enfantillage. Et j'attends quelqu'un. »
Les yeux bleus glaciers de l'âne se rivèrent sur la porte derrière Moiraine. Sur la poignée intérieure, la jeune femme, en tournant la tête, vit qu'on avait noué une sorte de corde tressée avec des cheveux.
« Elle ne sera pas contente de trouver une autre femme ici. »«
Votre compagne de lit n'a rien à craindre de moi, » dit sèchement Moiraine. « Pour commencer, vous êtes bien trop grand. De plus... j'aime les hommes qui ont au moins une ombre de charme et une certaine éducation. En revanche, je viens demander votre aide. Depuis la guerre des Cent Années, un pacte lie le Malquière et la Tour Blanche. Savez-vous ce qu'il dit? Quand la Tour appelle, le Malquière doit répondre. Eh bien, je suis une Aes Sedai et je vous appelle.
De loin, on voit la hauteur d'une colline, mais on ne peut pas estimer sa largeur.
marmonna l'âne, comme s'il citait quelque antique proverbe malquéri. Gagnant l'autre bout de la pièce, il saisit son fourreau et y rengaina sa lame d'un geste vif.
« Je vous aiderai si vous répondez à une question. Au fil des ans, je l'ai posée à bien des Aes Sedai, mais elles se sont toujours débrouillées pour l'éluder, me glissant entre les doigts comme des anguilles. Si vous êtes vraiment une sœur, j'attends votre réponse.
Si je la connais, vous l'aurez. »
Au lieu de répéter pour rien qu'elle était ceci ou cela, Moiraine s'ouvrit au Saïdar et fit léviter un fauteuil jusqu'au milieu de la pièce. Avec ses mains, elle n'aurait pas eu la force de soulever le siège. Avec le pouvoir, c'était un jeu d'enfant. Allant s'asseoir, elle posa les mains sur ses genoux, exposant à la vue la bague au serpent. Quand deux personnes étaient debout, la plus grande avait toujours un avantage. Mais un homme debout devait se sentir jugé par une femme assise, surtout s'il s'agissait d'une Aes Sedai. C'était sans doute vrai, sauf quand l'âne était concerné. Pour la première fois, il croisa le regard de Moiraine, et ses yeux bleus ne sillèrent pas.
Alors que le Malkier agonisait, dit-il, le Chiennard et la Raphaël ont envoyé des hommes. Même s'ils ne purent pas contenir le flot de Myrdral et de Trolloc, ces braves sont venus. D'autres partirent du Condor et même du Saldaïa. Ils arrivèrent trop tard, mais ça ne change rien.
Le bleu glacial devint celui des flammes. L'âne ne changea pas de ton, mais il ferma si fort les mains sur le fourreau de son arme que ses jointures en blanchirent.
Pendant 900 ans, les Malkiri ont répondu aux appels de la tour. Mais où était la tour blanche quand le Malkier l'appela? Si vous êtes une Aes Sedai, dites-le-moi.
Moiraine hésita. Elle connaissait la réponse pour l'avoir apprise durant les cours d'histoire dispensés aux acceptés. Mais ce savoir-là ne devait jamais sortir de la tour.
Et alors, au point où elle en était, et vu les ennemis qu'elle affrontait, que signifiait une punition de plus ou de moins?
Plus de 100 sœurs reçurent l'ordre de gagner le Malkier,
dit Moiraine, avec une sérénité qu'elle était loin d'éprouver. Selon tout ce qu'elle avait appris, ce qu'elle venait de dire aurait déjà dû l'inciter à réclamer un châtiment.
Mais les Aes Sedai sont incapables de voler, et celles-ci arrivèrent trop tard.
Lorsque les premières sœurs arrivèrent sur place, l'armée du Malkier avait déjà été écrasée par les hordes de créatures des ténèbres, et sa population fuyait sur les routes. La mort de ce pays avait été cruelle, sanglante et rapide. Trop rapide.
Je n'étais pas né quand ces événements se produisirent, mais je les regrette sincèrement. Et je déplore aussi que la Tour Blanche ait décidé de garder secrète sa tentative d'intervention.
Mais il valait mieux, en effet, être accusé de n'avoir rien fait, plutôt que de reconnaître un échec cuisant, désastreux pour l'image d'un ordre prétendument invincible. Le mystère était le meilleur allié des Aes Sedai, et personne ne pouvait venir leur dire ce qu'il fallait faire ou ne pas faire.
C'est tout ce que je peux dire, et c'est déjà trop. Aucune sœur ne serait allée si loin. Vous êtes satisfait?
L'âne regarda un long moment Moiraine, puis la glace revint dans ses yeux, chassant les flammes.
Je pourrais presque y croire,
murmura-t-il en détournant la tête, afin de ne plus soutenir le regard de Moiraine.
Comment puis-je vous aider?
Moiraine fronça les sourcils. Elle aurait volontiers passé plus de temps avec cet homme, histoire de le mater, mais elle devrait attendre, et espérer qu'il ne soit pas un suppôt des ténèbres.
Il y a une autre sœur au palais, nommée Meréane Redil. Je veux savoir ce qu'elle fait, où elle va et qui elle rencontre.
L'âne scia, mais ne posa pas la question pourtant évidente. Savait-il qu'il n'obtiendrait pas de réponse? En tout cas, sa retenue était encourageante.
Je ne sors pas de ma suite depuis mon arrivée.
Il jeta de nouveau un coup d'œil à la porte.
Je ne vois pas comment.
Malgré elle, Moiraine eut un rictus méprisant. Ce guerrier promettait son aide, puis il s'inquiétait de la réaction d'une maîtresse. Au fond, il n'était peut-être pas l'homme qu'elle croyait, mais elle n'avait personne d'autre sous la main.
« Je ne pensais pas à vous, »
précisa Moiraine. D'ici peu, tout le palais saurait qu'elle était venue chez l'âne. Alors s'il commençait à jouer les espions, le résultat serait désastreux, même si Meréane n'était plus innocente qu'un nourrisson.
« En revanche, vous pourriez demander à un des Malkiri présents au palais pour vous soutenir. » Quelqu'un qui aurait un œil d'aigle et la langue pas trop déliée. Toute cette affaire doit rester secrète.
Personne ne me soutient,
lâcha l'âne. Regardant de nouveau la porte, il sembla soudain sur ses gardes. Allant se camper devant le feu, il posa son épée à côté de la cheminée, avec les gestes lents et exagérément soigneux d'un homme très fatigué.
Je demanderai à Rhine et à Bukama de surveiller cette sœur,
dit-il, le dos tourné à Moiraine.
Mais je ne peux pas jurer qu'ils accepteront.
C'est tout ce que je peux faire. »
Moiraine ravala son agacement. Qu'elle ne puisse rien faire de plus ou ne le veuille pas, elle n'avait aucun moyen de le forcer à agir.
« Bukama,
lâcha la jeune femme.
Et lui seul. »
À en juger par le comportement qu'il avait eu avec elle, Moiraine était sûr que Rhine, fasciné par Meréane, ne verrait et n'entendrait rien, s'il ne courait pas avouer à la sœur ce qu'il était en train de faire.
« Et ne lui dites pas pourquoi. »
L'âne tressaillit, tournant la tête, mais il finit par acquiescer. Et une fois encore, il ne posa pas la question qui serait sortie des lèvres de la plupart des gens. Quand elle lui dit de rester en contact avec elle par l'intermédiaire de Suki, sa servante, Moiraine pria pour ne pas avoir commis la plus grosse erreur de sa vie. Revenue dans ses appartements, elle découvrit à quel point les nouvelles se répandaient vite au palais. Au salon, Xuan était en train de proposer un plateau de sucreries à une grande jeune femme en robe de soie verte. Malgré sa bouche sensuelle, c'était à peine plus qu'une adolescente, en fait. Arborant une crinière qui cascadait jusqu'à ses hanches, elle avait un petit point bleu peint sur le front, à peu près à l'endroit où pendait la pierre du caissierat de Moiraine. Le visage serein mais la voix agacée, Xuan fit les présentations. Quand Dame Izel parla, Moiraine comprit pourquoi sa servante était sur les nerfs.
« Au palais, tout le monde dit que vous êtes une Aes Sedai. »
Izel ne se leva pas et n'eut même pas un hochement de tête poli.
« Si c'est vrai, j'ai besoin de votre aide. Ma mère veut que je me marie. Je ne refuserai pas que l'âne soit mon carneira, si ma mère n'avait pas été la sienne. Mais lorsque je me marierai, il sera un de mes champions, parce que je veux appartenir à la Javert. »
Elle regarda Xuan.
Ne reste pas dans nos jambes, ma fille. Va donc te mettre à l'écart, en attendant qu'on ait besoin de toi.
Xuan alla se placer près de la cheminée, les bras croisés et l'air morose. Une vraie servante n'aurait pas agi ainsi, mais Izel l'avait déjà oublié.
Asseyez-vous, Moiraine, et je vous dirai ce que j'attends de vous. Si vous êtes vraiment une Aes Sedai, bien sûr.
Moiraine n'en crut pas ses oreilles. On venait de l'inviter à s'asseoir dans son propre salon. En matière d'arrogance, cette gamine aurait été la digne compagne de l'âne. Et cette histoire de carneira, en ancienne langue, ce mot signifiait « premier ». Pour les Malkiri, il avait visiblement un sens plus profond, mais pas celui qui semblait évident, bien sûr. Ces gens n'étaient pas assez fous pour ça.
« Avant que vous choisissiez un Aja, »
dit Moiraine en s'asseyant,
« il faudra que je vous teste, pour déterminer s'il y a une raison de vous envoyer à la tour. » Quelques minutes suffiront pour évaluer votre potentiel et... »
Izel n'hésita pas à interrompre son interlocutrice.
« J'ai déjà été évaluée, il y a des années. Selon l'Aes Sedai, je deviendrai très puissante dans le pouvoir. J'avais prétendu être âgée de 15 ans. Hélas, elle a appris la vérité. Mais pourquoi n'aurais-je pas pu rejoindre la tour à 12 ans, si j'en avais eu envie? Mère est entrée dans une rage folle. Elle répète depuis toujours que je serai reine du Malkier. Mais pour ça, il faudrait que j'épouse l'âne. Et je n'en voudrais pas comme mari. » Même si ma mère n'avait pas été sa carneira. Si vous lui dites que vous m'emmenez à la tour, elle devra se faire une raison. Les Aes Sedai choisissent leurs novices, tout le monde le sait. Et il est impossible de s'opposer à leur volonté. Alors, vous êtes bien une sœur?
Pour se calmer, Moiraine eut recours à l'exercice du bouton de rose.
Si vous voulez aller à Tarvalon, je vous souhaite bonne route. Je n'ai pas le temps de vous escorter. De plus, là-bas, vous rencontrerez des sœurs dont l'authenticité ne vous semblera pas douteuse. Suki, tu veux bien raccompagner Dame Izel? Elle est sans doute pressée de se mettre en chemin avant que sa mère lui tombe sur le dos.
La gamine s'empourpra d'indignation. Résolue à la voir partir, Moiraine fit signe à Xuan, qui la poussa dans le couloir malgré ses couinements de protestation. Une aura enveloppa la fausse servante, et les cris moururent sur un gémissement de douleur.
Cette peste ne tiendra pas un mois à la tour,
dit Xuan quand elle revint, en se frottant les mains de satisfaction.
Même si elle a le potentiel pour égaler Katsuane. Pour ce que ça m'intéresse, Sierine pourrait la jeter du haut de la tour,
fit Moiraine.
Tu as du nouveau? Pour commencer, le jeune Cal embrasse très bien. À part ça, je reviens de la cale avec un seau plein d'eau, oui.
Xuan se rembrunit.
Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je l'ai seulement embrassé, Moiraine. As-tu tenu dans tes bras un bel homme, depuis le jeune Comanes que tu as embrassé la nuit avant de partir pour la tour? Ça fait un bail pour moi aussi. Et Cal est très beau.
Si tu le dis,
fit sèchement Moiraine. Par la lumière. Depuis quand n'avait-elle pas pensé à Comanes? Un très joli garçon, de fait. Bizarrement, apprendre que Moiraine était allée voir l'âne perturba davantage Xuan que la brusque entrée dans le jeu de Meréane.
Tu peux m'écailler et me mettre dans la saumure si ça te chante. Mais je persiste à dire que tu prends des risques idiots.
Moiraine,
Un homme qui réclame la couronne d'un pays fantôme est un condensé de crétin. Il est peut-être en train de bavasser sur toi à l'instant même, racontant son histoire à qui veut bien entendre. Si Méréane sait que tu l'as fait surveiller, que la lumière me brûle. C'est bien un condensé de crétin, ma chère, mais je ne le vois pas bavasser, comme tu dis. De plus, on ne gagne rien si on ne risque pas un seul sou. C'est ce que te répétait toujours ton père, pas vrai? Nous sommes contraintes de prendre des risques. Avec Méréane dans les parages, le temps presse. Tu dois contacter au plus vite Dame Inès.
Je fais de mon mieux, marmonna Siouan. Elle bomba le torse comme si elle voulait se battre. En réalité, elle ajustait sa robe sur ses hanches.
Moiraine espéra qu'elle en resterait au baiser avec Cal. Bien sûr, ça ne le regardait pas. Mais les aventures de ce genre finissaient toujours mal, surtout avec un page. Lorsque Siouan fut parti en mission, Moiraine essaya de lire, mais elle ne parvint pas à dépasser la première page, la fixant bêtement pendant des heures. Tard dans la nuit, Siouan revint, et cette fois, elle avait des nouvelles qu'elle communiqua à Moiraine, tout en fouillant dans ses robes de laine et ses chemisiers. Pour commencer, sur le chemin du retour, elle avait été abordée par un vieux type, qui lui avait demandé si elle était bien Suki. Ensuite, il lui avait appris que Méréane avait passé presque toute la journée avec le prince Brice, avant de se retirer dans ses appartements. Aucun indice concluant de ce côté. Mais Siouan avait pu parler de Ryan avec Cal, et sans éveiller les soupçons. Au moment de la naissance, le page n'était pas avec sa maîtresse, mais il connaissait la date exacte, un jour après le début de la surprenante retraite des Aiel. Moiraine et Siouan échangèrent un regard lourd de sens. Un jour après que Jitara Moroso eut prédit la réincarnation du dragon avant de tomber raide morte, foudroyée par le choc. La mère avait vu l'aube se lever sur le pic, et l'enfant était né dans la période des 10 jours précédant le soudain dégel.
« Ce n'est pas tout, » dit Siouan, tout en faisant un baluchon avec ses affaires.
« J'ai raconté à Cal que tu m'avais renvoyé parce que j'avais renversé du vin sur ta robe. Du coup, il m'a proposé une place dans le dortoir des servantes d'Inès. »
Elle ricana, amusée, puis vit l'expression de Moiraine et ricana encore, mais d'agacement.
« Pas dans son fichu lit, Moiraine. Et même si c'était le cas, c'est un garçon bien éduqué, très doux, et doté des plus beaux yeux marrons que tu aies vus de ta vie. Un de ces jours, tu te décideras à faire plus que rêver à un bel homme. Et j'espère bien être là pour voir ça.
Ne dis pas de bêtises, »
grogna Moiraine. Avec la tâche qui les attendait, elle n'aurait pas de temps à gaspiller avec les hommes. Pas de la façon que visait Siouan, en tout cas. Méréane avait passé la journée avec Brice, sans tenter d'approcher Inès. Qu'elle soit une enquêtrice de Tamra ou une sœur noire, ça n'avait aucun sens. Pourtant, elle était forcément l'une ou l'autre. Quelque chose échappait à Moiraine, et ça l'inquiétait. Ce qu'elle ignorait pouvait très bien lui être fatal par les temps qui couraient. Et pire encore, être fatal au dragon réincarné dans son berceau.